Est-ce qu'il y en a parmi vous qui, de temps en temps, font du vélo? Oui, de temps en temps. Ouais, super, super. Est-ce qu'il y en a qui font de la course à pied ou du foot? Oui, la course à pied, voilà. Qui c'est qui fait un sport qui demande pas mal d'efforts? Oui, là-bas, il y a quelqu'un. Qu'est-ce que tu fais comme sport, mon frère? Du jogging, ouais, ouais, alors effectivement, alors là, ça c'est sûr que ça demande pas mal d'efforts. Et vous savez très bien hein, que la plupart du temps, lorsque les sportifs font des efforts, ben, au bout d'un moment, ils ont soif. Ah, ça tombe sous le sens. Hein. Il y a beaucoup d'énergie qui est dépensée, les muscles sont sollicités. Et puis quand on ne s'abreuve pas, qu'est-ce qui se passe? Ben, on commence tout d'un coup, parfois même à avoir des vertiges. La vision commence à devenir floue. On sent que l'énergie commence à diminuer. Bref, le corps commence à réagir d'une manière différente parce qu'il a besoin de quelque chose qu'il élimine en même temps. C'est assez curieux, mais c'est comme ça. Hein. Mais pas besoin non plus de faire beaucoup de sport pour avoir soif. Avec les températures qu'il fait ces derniers temps, on peut avoir soif et c'est quelque chose de tout à fait normal. L'année dernière, avec mon épouse, on roulait dans un désert en Israël. On était parti tôt le matin et le soleil se levait juste en face de la voiture. Il semblait que la climatisation n'était pas suffisamment puissante. Et au bout d'un moment, on avait soif, même dans la voiture qui était rafraîchie par la climatisation. Et je me suis dit, mais oh là là, là, il y a un truc qui ne va pas. Je commençais à avoir un petit peu trop. Je me suis dit, ça, c'est des signes que je connais puisque je fais aussi du sport. Donc, je me suis arrêté. On s'est posé quelque part. On a bu, on a mangé et on a repris notre route après. Et heureusement, on est arrivé à destination. On peut avoir soif dans la vie de différentes manières. Et j'aimerais juste que Simon nous fasse la lecture de ce texte où Jésus parle de ces soifs qu'on peut avoir et de la manière dont il y répond. Ce texte se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 7, les versets 37 à 39.
Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, debout, s'écria : si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qu'allait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié.
Merci Simon. Le dernier jour, le grand jour de la fête des tabernacles. Vous savez ce que c'est cette fête? Elle est célébrée en octobre, hein? Elle est faite de 8 jours consécutifs, 8 jours de fête, de célébration. Et cette fête est caractérisée par le fait que les Juifs, partout dans le pays, mais plus particulièrement dans la capitale, à Jérusalem, dressent des cabanes de bois couvertes avec des branches de palmiers. Si vous visitez Israël à ce moment-là, c'est absolument stupéfiant parce que quels que soient les endroits où vous allez, dans les villes, dans les campagnes, partout, ces cabanes sont dressées le temps de cette fête, le temps de ces 8 jours. Et les Juifs prennent énormément de soin à confectionner ces petites cabanes. Alors pour les plus pauvres, pour ceux qui ne peuvent pas se payer trop de bois, elles sont construites parfois en plastique. Mais sur le plastique est dessiné des fruits et des arbres. Et puis sur les toits, il y a donc ces grandes feuilles de palme. C'est absolument stupéfiant. Partout où vous allez, devant le mur des lamentations, par exemple, dans cette période-là, vous verrez une énorme souka, une énorme cabane construite comme ça, où tout le monde peut venir manger. Tout le monde apporte sa nourriture, tout le monde est accueilli, il y a un grand partage. C'est comme un repas canadien. Et le grand jour de cette fête, Jésus va faire quelque chose de particulier. Mais que signifie cette fête? Pourquoi est-ce que les Juifs dressaient des cabanes et continuent de le faire encore maintenant? Tout simplement parce que cette fête des cabanes rappelle un élément crucial, un événement crucial dans la vie du peuple d'Israël. C'était non seulement la sortie d'Égypte, bien sûr, mais surtout le fait que pendant 40 ans, le peuple a erré dans le désert. Pendant 40 ans, les Juifs devaient suivre la nuée qui les conduisait d'endroit à un autre dans le désert. Et ce n'était pas le Club Med. Ce n'était pas une situation facile parce qu'il fallait traverser ce désert. Et je vous assure, si vous allez dans un désert là-bas, dans le Moyen-Orient ou ailleurs, les déserts, vous savez comment c'est sec, c'est aride. C'est dans certains endroits du sable, comme dans le Sahara. En Israël, c'est de la caillasse et de la poussière. Donc c'est loin d'être le grand confort. Et quand les Juifs devaient traverser ces déserts, c'était une situation absolument éprouvante. C'était pénible, c'était difficile, mais ils devaient, parce que Dieu le leur demandait, marcher dans ce désert. Alors les Juifs, pour commémorer cet événement, cette sortie d'Égypte, mais aussi ce grand cheminement, ce grand pèlerinage, les Juifs construisaient ces cabanes et continuent de les construire à chaque fête des tabernacles. La situation est tellement affreuse que dans Deutéronome chapitre 1, verset 19, Dieu dit « J'ai continué de te conduire dans ce grand et cet affreux désert ». Mais pourquoi une telle circonstance? Pourquoi un tel désert? Tout cela à cause des pauvres choix qu'Israël avait faits. Ce peuple qui avait vu les miracles que Dieu accomplissait en terre d'Égypte avait refusé à un moment donné de croire qu'il pouvait entrer dans l'abondance et dans la plénitude, dans le pays où coule le lait et le miel, le pays promis. Son cœur s'était endurci pour diverses raisons. Et par des pauvres choix, Israël s'était rebellé contre l'ordre de Dieu qui a dit « Tu vas rentrer dans ce pays ». Alors on suivit ces 40 ans de pèlerinage dans cette terre difficile. Et j'aimerais juste faire le parallèle avec nous. Aujourd'hui, il y a des déserts que nous traversons dans nos vies, aussi à cause de nos choix. Il y a des circonstances dans lesquelles le Seigneur nous a dit « Fais ceci, fais cela » et nous avons refusé. Et c'est nos propres choix qui nous ont conduits dans le désert. Ce sont nos options de vie qui font que maintenant, si je peux me permettre, passez-moi l'expression, on crève de faim ou de soif, alors que l'abondance était là, alors que l'abondance était donnée, alors que l'abondance était offerte. Le désert, ce n'est pas forcément des circonstances extérieures. Le désert, ça peut être ce qu'on vit à l'intérieur. Le vide, le néant et toutes sortes d'autres choses. Mais ce qu'il y a de fantastique, c'est que Israël, chaque année, ne célébrait pas sa désobéissance, mais au travers de la fête des tabernacles, chaque année, Israël célébrait et continuait de célébrer le fait que pendant 40 années, Dieu a pourvu. Pourquoi? Parce que la fête des tabernacles, c'est aussi la fête de la fin des récoltes. On célébrait le fait qu'il y avait eu des récoltes abondantes dans le pays. Et si vous entrez dans une de ces soukas, vous verrez que les Juifs prennent soin parfois de mettre des guirlandes d'aluminium ou de couleur, ou la plupart du temps, quand ils ont suffisamment d'argent, ils mettent des guirlandes de plantes ou de fruits. Et c'est magnifique à voir, c'est très beau. Rien à voir avec le sapin de Noël, bien sûr, mais c'est beau à voir, parce que ça célèbre la fidélité de Dieu. Ça célèbre le fait que malgré les pauvres choix de son peuple, Dieu a dit « Je viens et je vais quand même pourvoir ». Dans ce désert, à un moment donné, le psalmiste dit que même les sandales des chaussures du peuple ne se sont pas usées. Dieu a pourvu largement, malgré les pauvres choix de ce peuple. Tous les rites de cette fête des tabernacles sont en fait des allusions aux bienfaits miraculeux dont Israël a joui par la grâce de Dieu. Souvenons-nous de la manne, 40 ans dans le désert, 40 ans de manne. Chaque matin, le peuple se levait et trouvait ces petites graines qui étaient comestibles. Il n'avait qu'à se baisser, à ramasser pour la journée, à faire cuire ça et à manger. Et le lendemain, il sortait de nouveau, et une fois que la rosée était partie, de nouveau ces petites graines étaient à la surface de la terre et il pouvait manger. Dieu avait envoyé miraculeusement ce pain dans ce désert. Et des cailles de la viande chaque jour dans le désert pour nourrir combien? Un petit groupe de personnes égarées dans le désert? Pas du tout. Des milliers et des milliers de gens. Des milliers et des milliers de gens. J'aimerais te dire une chose. Mon frère, ma sœur, ou toi qui entends ça pour la première fois, malgré tes déserts, ou au sein de tes déserts, ton Dieu veut te nourrir et pourvoir à tes besoins. Tu n'as pas besoin de vivre dans la disette et dans la soif. Tu n'as pas été créé, excuse-moi, pour crever de faim ou de soif. Tu n'as pas été créé pour vivre dans la pauvreté et dans la mendicité. En tant que créature de Dieu, tu portes l'image de ton Dieu qui veut te voir vivre dans l'abondance. Je ne prêche pas l'évangile de la prospérité, loin de là. Mais vivre dans la pauvreté et dans la disette tous les jours de sa vie, c'est quelque chose que Dieu n'a jamais voulu. Jamais voulu. Dieu n'a pas créé un chef-d'œuvre, vous et moi, pour après le laisser pourrir ou moisir dans une poubelle. Un chef-d'œuvre, ça se met en évidence. Les chefs-d'œuvre aujourd'hui sont dans les plus beaux et les plus grands musées de cette terre. On en prend soin. Ce sont des œuvres précieuses. Dieu veut prendre soin de toi. Il voit ta faim, il voit ta soif. Il a envie de te nourrir et il a envie de t'abreuver. Dieu a pourvu et Dieu veut encore pourvoir dans ton désert. Et pour célébrer le fait que Dieu ait pourvu malgré la désobéissance, ces 8 jours de fête, c'était vraiment une liesse incroyable. Et ça l'est encore aujourd'hui. Et notamment le grand jour de la fête, le dernier jour, qui est en fait un Shabbat. Quand les Juifs viennent de toute la ville de Jérusalem pour se rassembler par centaines, voire par milliers devant le mur des Lamentations, c'est la fête, vous les voyez descendre par groupes en farandole. Ils chantent, ils acclament Dieu. Et les plus jeunes font des rondes, ils frappent dans les mains, ils chantent à tue-tête. Mais c'est absolument fantastique de voir ça. C'est merveilleux de voir cela. Parce que ce peuple se rappelle la bonté de son Dieu à son égard, malgré la dureté de son cœur. Malgré la dureté de son cœur. Il y a quelques jours en arrière, je lisais l'évangile de Luc, et notamment cette parabole des deux fils, Luc 15. Vous savez, cette parabole qu'on dit souvent être la parabole du fils prodigue, mais ce n'est pas la parabole du fils prodigue, c'est la parabole des deux fils, parce qu'il y avait deux fils qui étaient impliqués dans cette histoire. Et lorsque le fils prodigue est rentré à la maison, qu'a fait le père? Il a dit, mais qu'est-ce que tu sens mauvais, toi? C'est pas possible, on voit que tu as gardé les cochons pendant plusieurs années. Allez, va-t'en. Non, il a fait la fête. Et le fils aîné, il lui a dit, mais viens faire la fête avec moi parce que ton frère est retrouvé. Mes amis, et je n'exagère rien, lorsque je dis cela. La relation avec ton Dieu, le contact avec ton Dieu, c'est une fête permanente. C'est une fête. Si tu ne vis pas la fête, c'est qu'il y a un aspect de la personne de ton Dieu que tu n'as pas encore connu. Quand tu entres en relation avec ton Dieu, c'est la fête, c'est la joie. Mais pas une joie éphémère, pas une joie futile. C'est une joie profonde qui vient, qui s'installe là et que personne ne peut enlever. Ta relation avec ton Dieu, Dieu veut que ce soit une fête. Dieu veut que ce soit une fête. Alors dans certains cas, cette fête, c'est une fête très calme, mais tellement douce, tellement profonde. Et dans certains autres cas, dans certaines circonstances, c'est une fête exubérante. On a envie de chanter, on a envie de crier, on a envie de danser. Là, à un moment donné, quand le groupe Louange nous conduisait dans la louange, j'avais juste envie de crier, mais je me suis dit non. Attends, calme-toi Michel, on ne sait jamais comment les gens vont réagir. Mais la relation avec Dieu, c'est une fête, mes amis. C'est le Dieu de la joie. Ce n'est pas le Dieu austère et profond. Rien à voir avec ça. Dieu vit, comme dit, je crois, l'Épître à Tite, une joie, une félicité éternelle. Au Dieu bienheureux, dit Paul dans Tite. Oui, Dieu est un Dieu bienheureux. Il vit dans une béatitude constante, profonde, éternelle. Et cette fête-là, il veut te la communiquer. Tu n'as pas besoin de crever de faim et de soif. Dieu veut te remplir. Dieu veut te rencontrer. Dieu veut te nourrir, te satisfaire. C'est ça, la relation avec Dieu. Alors voilà que le dernier jour, le summum de cette fête, le 8e jour, voilà que Jésus intervient. Où c'est qu'il est situé? Très certainement dans le temple. Tout le contexte de ce passage le montre. Je ne lis pas tous les versets qui nous montrent cela, ça prendrait trop de temps. Mais très certainement, Jésus est là quelque part, près d'une porte du temple. Et ce rassemblement, ce dernier jour, est un rassemblement solennel, très solennel. Parce qu'il va se produire quelque chose de très particulier, comme les autres fois, mais plus spécialement ce moment-là, ce jour-là. Qu'est-ce qui va se passer? Un des prêtres va sortir du temple avec une cruche d'or sur les épaules ou sur une épaule. Il va prendre une route que l'on a redécouverte sous des gravats des milliers d'années plus tard. Et il va descendre en contrebas de la colline de Jérusalem. Il va aller jusqu'au bassin de Siloé. Et là, dans ce bassin de Siloé, il va plonger sa cruche, cette grosse coupe. Oui, c'est une grosse cruche en fait, un gros vase. Il va plonger son vase dans ce bassin, il va le remplir d'eau, il va le reprendre sur l'épaule et il va retourner au temple. Et alors qu'il va retourner au temple, il va prendre cette eau, le peuple va dire à ce moment-là, « Lève la main !» Et le prêtre va lever la cruche pour ensuite verser l'eau au pied de l'autel des sacrifices. Et entre le moment où le prêtre quitte le temple jusqu'au bassin de Siloé et jusqu'à son retour dans le temple, le peuple chante, le peuple danse, le peuple crie. Il y a le bruit des cymbales et des trompettes retentissantes. C'est une fête, mes amis, c'est la fête. Et pendant qu'il y a tout ça, le peuple chante aussi, « Vous puiserez avec joie aux sources du salut. » Ésaïe 6 ou 7. Le peuple crie et chante ça, tout le long. Pourquoi ? Parce que pendant 40 années, Dieu a pris soin d'abreuver son peuple dans le désert. Pourquoi ? Parce que derrière les tribus qui marchaient à la suite de Moïse, il y avait un rocher spirituel qui suivait ce peuple. De ce rocher, un jour, Moïse a fait sortir de l'eau en prenant son bâton et en tapant dessus. Et l'eau a coulé. Et la Bible nous dit, dans le Nouveau Testament, ce rocher qui suivait Israël est une préfiguration de Christ, de qui coule toute abondance. Alors le peuple chante parce qu'il a été abreuvé, parce que malgré la souffrance de cet affreux désert, il y avait là une source d'eau qui le satisfaisait. Et en rapport avec cela, voilà que justement, au moment où le prêtre accomplit cet acte spécial, au moment des ovations, des cris de joie, du son des trompettes et des cymbales, Jésus, lui, se lève. Relisez ce que dit le texte. Ce dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria. Il se tient debout. Et tout le peuple le voyait. Il murmure. Mais non, il ne murmure pas. Il crie. Alors, je ne vais pas crier. Mais il s'écrie. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et tous les Juifs savaient très bien ce que Jésus voulait dire par là. Tiens, il s'identifiait à ce rocher spirituel qui suivait nos pères dans le désert. Ce Jésus-là, c'est celui qui te suit dans ton désert depuis des années. Il te suit dans ton désert depuis des années. Si tu es là ce soir à entendre ce que je suis en train d'expliquer imparfaitement, c'est parce que Dieu t'a suivi dans ton désert depuis des années, c'est parce qu'il te connaît. Et c'est parce qu'il veut profondément t'abreuver. Alors le Christ te lance cet appel, si tu as soif, viens à moi. Si tu as soif, viens à moi. Si le désert dans lequel tu te trouves te fait gémir, te fait languir, viens chez moi, viens chez moi, viens boire l'eau que j'ai à te donner. C'est une eau fraîche, elle va te rejoindre jusque dans tes plus profondes profondeurs. Et regardez ce que dit Jésus juste après, qu'il vienne à moi, qu'il boive, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture, celui-là n'aura plus jamais soif. Tu as soif, viens à Jésus. Tu vas me dire, mais c'est un drôle de message, moi je suis chrétien depuis tant de temps. Oui, peut-être, mais les chrétiens aussi ont soif. Il peut y avoir depuis des années des domaines de ta vie où le Christ n'est pas encore venu désaltérer cette partie de ta vie. Il peut y avoir des aspects de ton existence qui n'ont pas encore été rencontrés par le Sauveur qui t'appelle, parce qu'il y a là un appel qui est lancé. Parce que là, Jésus crie pour que tu viennes à sa rencontre. Il te dit, ne te prive pas de ce que j'ai de bon à te donner. Ne te prive pas des bonnes choses que je vais t'offrir. Le drame le plus important, le plus grand de notre humanité, et parfois dans l'Église aussi, c'est que nous ne répondons pas aux appels que Jésus nous lance. C'est ce qu'on appelle l'incrédulité. Et plutôt que d'aller chez lui, on va chercher toutes sortes d'autres moyens pour satisfaire les soifs de nos vies, même en tant que croyants. Mais ce soir, Jésus veut te dire, arrête d'aller boire ailleurs. Tu n'es de toute façon pas désaltéré. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a que chez moi que tu le seras. C'est de chez moi que coulent l'eau et la vie abondante. Je suis le rocher des siècles qui te suivait depuis des années dans ton pèlerinage et dans ton désert. Si tu viens et si tu crois en moi, tu vas voir, je suis capable de te désaltérer. C'est quoi ces soifs ? Il peut y en avoir plusieurs. Soif de relation. On peut être entouré de tas de gens, mais être complètement seul. Je fais un métier où je rencontre des gens à longueur de journée. Et souvent, j'entends parler de cette solitude au travers de mots voilés. Souvent, j'entends parler de cette solitude. Et la première chose que je fais lorsque je perçois cela, je demande aux personnes qui sont dans mon bureau, mais est-ce que vous avez des personnes pour parler de ce que vous vivez là en ce moment ? Certains disent oui, d'autres, oh non, pas du tout. Mais pourquoi ? J'ai tellement honte. Soif de paix, soif de paix. On a chanté tout à l'heure, Jésus est le prince de la paix. On peut arriver ici, dans un lieu de culte, dans une réunion familiale, sur notre lieu de travail, partout, avec un grand sourire, mais être très agité à l'intérieur. Et avoir un tel besoin de paix, de sérénité, de tranquillité. Un peu à l'image d'un bébé qui, une fois qu'il a mangé son repas, qu'il est porté dans les bras de sa maman, vous savez, il se laisse complètement aller. Vous avez déjà vu un bébé hein, qui est repu, qui est satisfait. Mes fils, c'était comme ça. Quand ils avaient mangé, je prenais dans les bras, je le mettais à l'envers, la tête là, le dos face à moi, le ventre sur mon bras, puis leurs bras, c'était drôle. Il y en a un qui va se marier bientôt, je vais peut-être le lui rappeler. Non. Bref, besoin de cette paix à l'intérieur, besoin de cette tranquillité, de ce repos, besoin de cette joie, j'en ai parlé. Besoin de la joie. Certains d'entre nous, nous sommes passés par des déserts tellement marquants que notre visage reste marqué par la tristesse et le désarroi. Certains sont tellement comblés que ce masque de lourdeur disparaît et est remplacé par un regard rayonnant, par des yeux qui pétillent. Et quand je rencontre des croyants comme ça, je me dis, cette personne est abreuvée. Ce frère, cette sœur a trouvé la source. Pour d'autres, c'est des questions de finances qui posent des tas de soucis. Quel avenir avec le peu de choses que j'ai dans mon porte-monnaie ? Là aussi, le Seigneur veut pourvoir. Là aussi, le Seigneur veut pourvoir. Mon épouse et moi, on est passé il y a quelque temps en arrière par une situation difficile financièrement. Et à un moment donné, n'en pouvant plus, on a dit, Seigneur, à telle date, nous te demandons, s'il te plaît, de faire en sorte que cette question soit réglée pour toujours, que nous n'ayons plus besoin de revenir et de compter chaque centime ou chaque 10 centimes que nous avions dans notre poche. Et le miracle s'est produit. À l'échéance voulue, je vous raconterai peut-être une fois les détails, mais à l'échéance voulue, le Seigneur a pourvu de différentes manières. Réduction de loyer, les impôts qui nous sont retournés, etc. Difficultés dans les familles. Peut-être que quelqu'un ici soupire après un être cher qui s'est éloigné, qui est parti. Ou des tensions dans la famille. Jésus veut aussi combler cette partie de ton être. Ou au travail, tous les endroits de ta vie, le Seigneur est capable de les rencontrer les uns après les autres. Vous savez, je me suis rendu compte que toutes ces soifs, ce n'est ni plus ni moins que l'expression d'un profond besoin de plénitude. Un profond besoin de plénitude. Tant que le Christ n'est pas venu rassasier ces parties de notre être qui crient cette soif, tant que le Christ n'est pas venu installer cette plénitude au fond de nous-mêmes, nous restons parfois comme des zombies. On tâtonne, on cherche, mais qui c'est qui va me satisfaire ? Jésus est venu là pour te satisfaire. Il veut te combler. Il veut te communiquer sa plénitude. Et vous savez, si nous ne comblons pas ces soifs par la plénitude que le Christ donne, nous allons les combler par d'autres choses qui nous rendront encore plus assoiffés qu'avant. Encore plus. Toutes les dépendances sont souvent comblées par des faux moyens qui ne remplissent pas. Toutes les dépendances, que ce soit l'alcool, l'argent, le sexe, la drogue, en fait, ce sont des choses qu'on essaye d'utiliser pour combler en fait une plénitude qui n'existe pas, qui fait défaut. Et Jésus dit, tu n'as pas réussi avec ça. Ça ne m'étonne pas parce que la solution n'est pas là. La solution, elle est chez moi. Jésus t'interpelle. Et il te dit, tu es fatigué, tu es chargé, viens chez moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mais venez chez moi. Un jour, il disait aux Juifs, vous sondez les Écritures, c'est-à-dire vous passez un temps incroyable à décortiquer les textes, mais votre problème, c'est que vous ne voulez pas venir chez moi pour avoir la vie. Viens à Jésus, donne-lui ta vie. Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie éternelle. C'est quoi la vie éternelle? C'est le fait d'avoir des ailes collées dans le dos et une auréole collée sur la tête? C'est pas ça. La vie éternelle, c'est la qualité de vie dont Dieu vit. Dieu vit dans la vie éternelle. Et bien, une partie de cette qualité de vie, Dieu veut te la communiquer. Il ne va pas te faire de toi Dieu, mais une partie de ce qu'il vit, il veut te le donner. C'est pour ça qu'il a donné Jésus. Et lorsque tu reçois cette vie, la plénitude vient. Tu es satisfait, tu es comblé, tu es tranquillisé. Tu n'as plus soif, tu n'as plus faim. Venez à moi, venez chez moi. Le Seigneur ne te demande pas d'accomplir toutes sortes de rites. Il y a quelques dimanches en arrière, le pasteur Jean-Paul a parlé des traditions dans l'Église. Les traditions d'Église ne satisfont pas, absolument pas. La vie ne se trouve pas dans une tradition. La vie ne se trouve pas dans un rite qu'on peut accomplir, même fidèlement. La vie se trouve en Jésus. La vie ne se trouve pas même dans toutes sortes d'actes religieux. La vie se trouve dans une personne. C'est dans le Christ. C'est pour ça qu'il dit, venez à moi, venez à moi, venez chez moi. Écoutez, prenez de moi, écoutez mes paroles. Comment est-ce qu'on peut le faire aujourd'hui? Je vous donne une piste très simple, très très simple. Regardez le texte. Le texte le dit d'une façon très claire. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Comme dit l'Écriture. Comment veux-tu croire dans le Christ si tu ne passes pas ton temps le nez et le cœur plongés dans les Écritures? Tu ne peux pas. Tu ne le peux tout simplement pas. Si tu veux que ton âme et que ton cœur soient rassasiés et satisfaits, tu dois t'approcher des Écritures et lire les Écritures, méditer les Écritures, chercher Jésus-Christ dans les Écritures. Alors ce soir, tu peux venir à lui pour la première fois en faisant une simple prière, en disant « Oui Seigneur, j'ai compris que je dois croire en toi. Et sur la base du peu que je connais de toi, et sur la base de ce que je viens d'entendre, je décide de faire ce pas de foi et de te donner ma vie pour que je sois enfin satisfait, enfin désaltéré. Mais après cela, pour que cette plénitude descende toujours plus aux plus profondes profondeurs de ton cœur, je t'invite, mon ami, à plonger ton cœur dans ce livre et ton âme dans ce livre, parce que c'est là qu'il y a la vie. Jésus parle là-dedans. Il te parle là-dedans. Et si tu négliges cela, tu passes à côté d'une plénitude encore plus profonde. Tu ne peux pas connaître Jésus sans passer par les Écritures. Je fais juste une parenthèse. Régulièrement, le matin, de la gare jusqu'à mon travail, je croise des personnes qui distribuent de la littérature. Pas de Bible, pas de Nouveau Testament, curieusement, mais des magazines avec des photos plus ou moins agréable à voir. Et puis des tas de doctrines expliquées. Si vous voulez le bonheur dans votre famille, voilà ce que vous devez faire. Point 1, point 2, point 2, point 3, point nanana. Mais pas la Bible. Pas la Bible. C'est juste leur compréhension de la Bible. Ou leur interprétation de la Bible. Bref, une sorte d'approche biblique qui n'a rien à voir avec les Écritures la plupart du temps. Comment est-ce que je le sais? Tout simplement parce que j'ai pris les magazines et je les ai lus. Parce que j'ai eu la curiosité de me dire, tiens, mais comment est-ce que Jésus est présenté dans ces magazines? Jésus est pour eux un esprit. Jésus est pour eux un homme bon. Mais il n'est pas le Fils de Dieu. Il n'est pas le Messie. Et pour en avoir rencontré deux ou trois, et pour avoir discuté en profondeur avec eux, j'ai compris qu'ils n'ont pas de relation vivante avec Jésus. Ils ont une connaissance technique de la Bible, mais ils n'ont pas de connexion avec Jésus. Et c'est pour ça qu'ils sont vides. C'est pour ça qu'ils sont vides. Lis les Écritures. Lis le Nouveau Testament. Demande dans quel livre du Nouveau Testament le Seigneur veut te conduire et mange cette nourriture. Désaltère-toi de cette source qui coule d'ici. Et c'est comme ça que tu seras satisfait. Et c'est comme ça aussi que ton admiration et ton amour pour Jésus grandiront. Pourquoi ? Parce que dès le moment que cette source d'eau viendra au fond de tes tripes, au fond de tes entrailles, au fond de toi, elle ne pourra pas faire autrement que de jaillir à l'extérieur. Et grâce à toi, d'autres pourront boire. Et tu diras, mais Seigneur, c'est tellement juste, c'est tellement bon, c'est tellement profond ce que tu me donnes de vivre. Je veux le partager avec ceux qui m'entourent. On ne peut pas faire autrement que de le partager quand on le vit. Parce que ça coule, parce que ça coule, parce que ça coule. Alors le Seigneur te dit ce soir, je te demande seulement une chose. Crois dans ce que je te dis que je suis. Crois, simplement crois. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Si tu ne crois pas que Jésus est ton berger, tu vas continuer à errer dans ton désert. Si tu ne crois pas que Jésus est le pain de vie, tu vas finir ta vie affamé. Si tu ne crois pas que Jésus est la lumière, tu vas marcher dans les ténèbres. Si tu ne crois pas que Jésus est le cep sur lequel tu peux greffer ta vie, tu vas finir sec. Si tu ne crois pas que Jésus est la résurrection, tu vas vivre la mort avant même de mourir. Jésus te dit simplement, crois, crois, crois. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Je reviens à ma fête de tout à l'heure. C'est vers le bassin de Siloé que le prêtre allait pour puiser de l'eau et qu'il en remontait jusqu'au temple. C'est quand même incroyable, parce que Siloé, ça signifie l'envoyé, celui qui est envoyé. Et Jésus le dit, je suis envoyé par le Père pour ouvrir dans ton âme une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. C'est lui l'envoyé suprême, c'est lui l'envoyé suprême. Et prophétiquement, symboliquement, le prêtre venait puiser de l'eau dans ce bassin, le bassin de l'envoyé. Viens chez lui, viens puiser cette eau chez Jésus. Alors je te propose une simple démarche. Dis dans ton cœur, je me satisfaisais de cette manière, j'allais boire à telle source, je mangeais de tel pain, je me nourrissais de telles choses, mais je remarque que ces choses-là ne peuvent pas me satisfaire. Oh si, peut-être en partie, là, maintenant, tout de suite, dans les 30 secondes qui vont suivre, ça ira à peu près. Mais le lendemain, tu es tout aussi vite qu'avant. Alors dis dans ton cœur, voilà ce que je faisais maintenant, c'est terminé. Je tourne le dos à cela, et maintenant Jésus, je viens vers toi. Je viens chez toi. Je viens boire de cette eau qui satisfait, qui désaltère. Mais Seigneur, il faut que tu le fasses, parce que je n'ai d'autre recours que toi. Si je tourne le dos à ça, il faut que toi, Seigneur, tu le fasses pour moi. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il le fera. Je termine en disant que Dieu, expressément, dans le Nouveau Testament, au travers de l'apôtre Paul, dit « Jésus est, et je le dis peut-être d'une façon un peu plus actuelle, Jésus est le concentré de toute la sagesse et de toute l'abondance qu'il veut donner à ceux qui croient en lui. Ne te tourne pas vers quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre que Jésus, parce que c'est en lui que tout se passe. C'est en lui que tout se passe. »